Rémy de Gourmont, Un cœur ingénu. Préface. L'auteur avait pensé à qualifier ce livre « roman sans hypocrisie », mais il a réfléchi que ces mots paraîtraient malséants, hypocrisie étant de plus en plus à la mode. Il songea ensuite à un roman physiologique. C'était encore pire, par ce temps de grands convertis, où la grâce d'en haut purifie si à propos les petites passions humaines. Et ces deux sous-titres écartés, il ne restait rien. Alors il n'a rien mis. Roman, c'est un roman. Et ce ne serait que cela si on avait tenté, par une analyse sans scrupule, d'y dévoiler, si l'on peut dire, les dessous d'un cœur virginal, d'y montrer que l'innocence a ses instincts, ses besoins, ses obéissances physiologiques. Une jeune fille n'est pas seulement un jeune cœur, c'est un jeune corps humain tout entier. Tel est le sujet de ce roman, qu'il faut bien tout de même appeler physiologique. 10 octobre 1906. Appuyé au mur de la vieille terrasse en ruine, envahie par les herbes, les ronces, les acacias, la jeune fille mangeait des mûres. Elle montra en riant ses mains devenues violettes. M. Hervard releva la tête et dit « Vous avez aussi des moustaches, c'est très drôle. »« Mais je ne veux pas être drôle. » Elle alla vers le ruisseau voisin où elle trempa son mouchoir pour se laver les lèvres. Les yeux retombés sur sa loupe, M. Hervard continua d'examiner la fleur de marguerite où deux ligées écarlates étroitement unies ne faisait plus qu'un seul insecte. Endormi dans un amour profond, ils ne semblaient encore vivre que par le frémissement léger de leurs longues antennes. La femelle avait enfoncé sa trompe aiguë dans la fleur, et le mâle, avec la sienne, semblait pomper de la volupté dans le col immobile de sa compagne. M. Hervard aurait bien voulu assister à la fin de cet entretien passionné, mais cela pouvait durer des heures encore. Alors il se découragea. « Je sais d'ailleurs, songeait-il, que le mâle ne meurt pas immédiatement et aussitôt dégagé, et il trotte en quête de nourriture. J'aurais voulu voir le mécanisme de la désunion. Le hasard me donnera cela. Que l'on observe les bêtes ou les hommes, il faut compter sur le hasard. Il y a aussi les longues persévérances. » Après un mouvement de tête qui voulait sans doute dire que les longues persévérances n'étaient pas son fait, il déposa doucement la fleur et ses amoureux sur le rebord de la terrasse. C'est alors qu'il s'aperçut enfin que Rose n'était plus là. « Oh, j'aurais fâché avec ma plaisanterie. C'était faux, d'ailleurs. Mais il y a des moments où cet enfant m'énerve avec son air de désir et des caresses. » Et si je mettais simplement la main sur son épaule, elle me griflerait. C'est un être singulier. Oh, toutes les femmes sont des êtres singuliers, enfin, entre toutes les jeunes filles. Essuyant sa loupe avec soin, il enjamba le ruisseau et entra dans le bois. M. Hervard avait une quarantaine d'années. Assez grand et mince, il restait parfois un peu voûté, quand la curiosité l'avait tenu penché trop longtemps. Quoiqu'un de ses yeux fût comme rétréci par l'usage du microscope, il avait le regard vif et net. Son visage clair, à la barbe blonde taillée en pointe, était agréable, sans attirer l'attention, et s'il l'avait attiré, il ne la fixait pas. Conservateur de la sculpture grecque au musée du Louvre, s'intéressait fort peu à la froide beauté des marbres et moins encore à l'archéologie. Il aimait la vie et partageait ses jours entre les femmes et les bêtes. Les mœurs des insectes le passionnaient. On le voyait souvent au jardin des plantes ou plus souvent qu'à son bureau, sur le quai voisin, chez les marchands de bestioles. Le soir, il courait le monde à travers tous les mondes. Comme le milieu était favorable, il se donnait volontiers pour ancêtre M. d'Hervard, dont la femme aima La Fontaine. D'ailleurs, il disait que ses fonctions seules l'avaient empêché de se faire un nom comme naturaliste. Mais, selon l'opinion commune, M. Herwarth n'était en toute chose qu'un amateur très intelligent, gâté par beaucoup d'indolence. Ils venaient tous les 2 ou 3 ans passer quelques semaines chez M. Desbois, son ami, ancien sculpteur industriel au manoir de Robinvent près de Cherbourg. M. Desbois s'était récemment ennobli au moyen d'un Y et de quelques autres menus changements. Quand M. Desbois, B-O-Y-S, parut au monde, Herwarth n'eut pas l'air de s'apercevoir de la métamorphose. On l'aima beaucoup. Très occupée de cuisine et de pâtisserie, Madame Desbois s'empressait jusqu'à l'excès quand M. Herwarth était là. Un peu bête, jadis sentimentale et pleine de romance, Madame Desbois avait voulu que l'on appelât sa fille Rose. Mais cela ferait former un nom ridicule si Rose eût été une fille à tolérer 2 fois un sot compliment. Quoique rieuse et douce, d'ordinaire, elle était capable de froideur terrible et d'inattention cruelle. Ses parents l'adoraient et la redoutaient. On lui laissait faire sa volonté. Elle avait 20 ans. M. Herwarth, cependant, cherchait Rose. Il n'osait l'appeler, ne sachant quel mot choisir. Dans la conversation, il disait « vous », et devant des étrangers, « mademoiselle », en lui-même, « Rose ». Oh, elle était bien plus agréable il y a 2 ans. Elle m'écoutait, elle m'obéissait. Elle me capturait des insectes, maintenant, c'est le moment de la crise. Oh, si nous étions diligés, mais il se reprit. Bon, qu'elles soient des femmes, qu'elles soient des bestioles, l'amour pour elles est toute la vie. Les ligés vont mourir, leur œuvre accomplie, et les femmes commencent à mourir à l'heure de leur premier baiser. Elles commencent aussi à vivre. C'est beau le spectacle de ces jeunes filles qui veulent vivre, qui veulent remplir leur destinée et qui ne savent pas et qui cherchent, avec des sanglots, leur chemin dans la nuit. Je vais la trouver pleurant. Rose achevait d'essuyer ses yeux. Ils étaient bleus quand elle était triste et un peu verts quand elle était gaie. Vous avez pleuré, vous vous êtes piqué en passant à travers les houes. Ah, moi aussi. Oh, je ne pleurais pas pour cela. Mais qui vous dit que j'ai pleuré? J'ai eu un moucheron dans l'œil, regardez. J'en ai qu'un de rouge. Mais au lieu de lever la tête, elle l'abaissa, s'amusant à cueillir des fleurettes. Puis-je m'asseoir près de vous? En voilà une question. Oh, mais c'est parce que votre robe tient toute la place. Eh bien, bousculez ma robe. Monsieur Herwarth jeta sur les genoux de Rose le pan de robe qui s'étalait, et il s'assit sur le vieux banc avec une certaine précaution, car il le savait peu solide. Redevenu romantique avec la fortune et la noblesse, M. Desbois entretenait son domaine à l'état vétusté et sauvage. Sauf les pièces habitées et le potager, il n'y avait guère en sa maison et aux alentours que des murs salpêtres et des planchers pourris, des bancs moussus, d'inextricables buissons de ronces. Le lierre mangeait tous les murs, grimpait à tous les arbres. Près du ruisseau, une vieille tour semblait une cascade de verdure, dont les flots de lierre rejaillissaient jusque sur le dôme d'un vieux chêne aux bras morts, se dressant comme des fourches. C'était assez beau. Les deux bois ne sortaient jamais que pour montrer à un étranger le spectacle de leur forêt vierge, ou visiter parfois les châteaux et les sites de la Hague. M. Desbois faisait de la peinture. C'était le matin. Le bois était frais, encore humide. Le soleil, à travers les branches enlacées des hêtres, dessinait des fleurs sur le feuillage rigide des houes. Un petit marronnier poussait tout de travers, tendait à la lumière sa tête contournée. Il y avait tout près un cerisier sauvage où les moineaux se jetaient, inquiets, avec des cris. un jet passa, faisant un éclair bleu. Le vent, se glissant sous les arbres, courba les fougères qui changeaient de couleur. Une abeille blessée tomba sur la robe de rose. « Tiens, pauvre abeille, elle a une aile démanchée. Je vais essayer de la guérir. »« Prenez garde, dit M. Hervard, elle va vous piquer. Les animaux ne soupçonnent jamais qu'on veuille leur faire du bien. Pour eux, il n'y a que des ennemis. »« Vous avez raison, répondit Rose en secouant l'abeille. Au liger et la mangeons. Cela finira son malheur. Il n'y a que des ennemis. » Et Rose avait parlé d'un ton si amer que M. Hervard en fut inquiet. Il approcha son visage de celui de la jeune fille, autant que le permettait un grand chapeau de bergère, lui disant tout bas, « Vous avez du chagrin ?» Comme les femmes savent faire les choses à propos. Le grand chapeau disparut soudain, lancé comme avec dépit, et au même moment une tête blonde, ébouriffée par les charmantes, tomba sur l'épaule de M. Hervard. Ce fut une minute émouvante. L'homme, troublé, passa son bras autour de la taille de la jeune fille. Sa main saisit une petite main qui s'abandonna. Il n'eut qu'à tourner et à pencher un peu la tête pour baiser, tout près des cheveux, un front blanc, moite de fièvre. Il sentit alors un abandon plus volontaire, et la main qu'il tenait serra la sienne. Un mouvement brusque de Rose les sépara. Elle regardait franchement M. Hervard, disant, la figure tendrement épanouie, « Je n'ai plus de chagrin. » Elle se leva. Ils s'en allèrent à travers le bois, échangeant d'une voix douce d'insignifiantes paroles. Chaque fois que leurs regards se rencontraient, c'était dans un sourire. Ils touchaient des fleurs, des feuilles, de simples morceaux de bois mort, pour avoir l'occasion de se frôler les doigts. Arrivés à une clairière, ils laissèrent, marchant côte à côte, pendre intérieurement leurs bras et bientôt leurs mains se joignirent. Il y eut un silence très long et très agréable, mais chacun, cependant, avait des pensées particulières. « Évidemment, se disait M. Hervard, si j'ai un peu de raison, je vais reprendre le train qui m'amena. D'abord, aller à Cherbourg, expédier un télégramme qui m'en ferait recevoir un autre, par lequel je serais rappelé. C'est ennuyeux. Me plaisait tant ici. Mais à qui m'adresser? À Gratienne? Par une lettre, alors, pour inventer une histoire? Bon, ce sera pas plus grave dans 3 ou 4 jours. Je connais les jeunes filles. Le temps n'existe pas pour elles. Elles vivent dans l'absolu. Tant qu'il n'y aura pas de jalousie, et comment y en aurait-il, je serai tranquille. Elle est bien charmante, Rose. Dieu, je suis ému. Mais je dois être raisonnable. Je donnerai rendez-vous à Gratienne à Grand-Camp. Elle a envie de Grand-Camp à cause d'un roman qu'elle a lu qui se passait là. Puis il y a les roches. Moi, ça m'est égal pourvu que je m'en aille.
À quoi pensez-vous, mon ami?
Vous le demandez, mon enfant. Une pression plus forte de la petite main témoigna que la réponse avait été comprise. Le silence recommença. Gratienne, elle est en train de me tromper en ce moment. Aussi, laisser une femme toute seule à Paris au mois de juillet. Ne m'ennuie pas un instant, je dîne tous les jours chez Madame Fleury, qui est bien contente de m'avoir. Le 25, nous partons pour Honfleur. Faudra venir vous voir. Elle croit que Honfleur est tout près de Cherbourg. Ne m'ennuie pas un instant. Alors, quand les femmes sont claires, c'est qu'elles n'ont rien à cacher. Au contraire, c'est une de leurs ruses. Eh bien, mon enfant, tout à fait fini le gros chagrin? Je suis heureuse, répondit Rose. Un regard de ses grands yeux limpides confirma ses paroles solennelles. M. Hervard fut encore plus troublé qu'au moment de l'abandon. L'idée qu'il faisait le bonheur de cet enfant lui donnait beaucoup d'orgueil. Autant de ne pas déranger Gratienne. Elle est très soupçonneuse. Mais à qui m'adresser en ce cas? Mes collègues, non, je n'ai pas d'intimité. Gauvin, le marchand d'animaux, oh, ce serait humiliant. Que je m'ennuie. Mais sans cela, je verrai plus tard. Qu'y a-t-il après tout? Un peu d'amitié tendre. Rose vit tellement solitaire. Pourquoi lui ôter cette joie innocente de jouer au sentiment avec moi? Plaisir d'été.
Oh, dit Rose, voilà un Buprest, qu'il est beau.
Mais la magnifique bête cuirassée d'or et de saphir disparut sous les feuilles mortes. Ils n'y pensèrent plus. Rose avait bien d'autres idées. Elle se sentait remplie d'une tendresse fière.
« Je ne m'appartiens plus. C'est très émouvant. Mais que va-t-il se passer? Il m'embrassera sur les yeux, certainement. Mais comment résister, puisque je lui appartiens ?»
Elle leva la tête, regarda M. Hervard. Ses yeux se donnaient. Elle les ferma sans changer d'attitude. Un baiser effleura ses paupières douces.
« Mais il fait tout ce que je crois qu'il va faire. Est-ce lui qui lit dans ma pensée ou moi dans la sienne ?»
M. Hervard, cependant, cherchait les phrases galantes ou sentimentales et n'en trouvait pas. « Je pourrais louer ses cheveux châtains à reflets dorés, dire qu'ils sont fins et soyeux. Mais le sont-ils? Et puis c'est peut-être prématuré. Louer quoi? Sa bouche? Elle est un peu grande. Son nez? Elle est un peu busquée. Son teint? C'est un compliment de dire qu'il est pâle et mat. Ses yeux? Ça leur a l'air d'une allusion. Ils sont jolis, ses yeux changeants. » Il avait cueilli au passage un brin d'herbe. Il le regarda. De petits points noirs y couraient. « Oh, c'est ennuyeux, dit M. Hervard, que j'ai oublié mon microscope. »«
Mais j'en ai un, vous savez. Seulement le miroir est cassé. Il faudrait l'envoyer à Cherbourg. »«
Ne pourrait-on pas y aller soi-même ?»«
Si vous voulez. »«
Cela ne vous ferait donc pas plaisir, Rose ?» Elle fut si contente d'être appelée ainsi qu'elle fut un moment sans répondre. Puis elle dit, toute rougissante, « C'est que je ne sors presque jamais, je n'y pense pas. Vous savez bien que cela me plaira beaucoup de sortir avec vous. » Et elle ajouta d'un ton d'enfant gâté, « Je vais prévenir mon père, nous irons après déjeuner. » Monsieur Hervard considéra encore une fois son indéchiffrable brin d'herbe. « J'ai, dit-il, une bonne adresse, le Pouletet, l'opticien de la marine. Connaissez-vous, c'est un ami de Gauvin. »
« Le marchand de bêtes ?
Comment, vous avez retenu cela ?»«
Mais je retiens tout ce que vous me dites, »
répondit Rose, très sérieuse. Monsieur Hervard fut flatté. Il songea aussi que cette petite fille sentimentale pouvait fort bien faire une femme très sage et très pratique. Sa vie singulière lui apparut en une vision rapide. Il revit quelques-unes de ses maîtresses fugitives. Il vit Gratienne, qu'il connaissait depuis 6 mois et qu'il ne retrouverait peut-être pas à son retour. À cette idée, M. Hervard fronça le sourcil. En même temps, l'étreinte de ses doigts se desserra. Rose le regarda.
« À quoi pensez-vous ?»«
Encore, » se dit M. Hervard. « Cette éternelle question des femmes, comme si on n'y répondait jamais. Voici ma réponse. » Ayant inspecté les nuages, il préféra. « Je crois qu'il pleuvra tantôt. »«
Oh non, » dit Rose, « je ne crois pas. Le vent est de Suède. »
Elle ajouta bien vite, consciente de son provincialisme, comme disent les gens du pays. Cela signifie « sud-est ». Peu curieux de forme dialectale du langage, M. Hervard reprit avec un peu de méchanceté et avec cette infatuation propre aux Parisiens. Oh, c'est un vilain mot, il faut dire sud-est. Vous en êtes du pays.
Moquez-vous. Cela m'est égal maintenant, dit Rose. Du pays, mon père en est, ma mère en est. Je n'y suis pas né, mais j'en suis aussi. J'en suis comme les arbres, comme l'herbe, comme toutes les bêtes. Oui, j'en suis. Et elle relevait la tête avec fierté. Mais j'en suis aussi, dit Monsieur Hervart. Oui, mais vous ne l'aimez plus. Mais je l'aime, puisqu'il vous a produite et puisque vous l'aimez. Enchanté d'avoir trouvé cette fadeur, Monsieur Hervart courut son chapeau à la main vers un papillon, mais il le manqua. C'est plus difficile à prendre que des baisers, dit Rose avec un peu d'ironie. Monsieur Hervart se demanda interloqué, mais ne serait-elle que sensuelle? Mais Rose était bien incapable de séparer son être en deux parties. Sa personne lui donnait un sentiment de parfaite unité. Son mot était un mot de conversation. Elle n'était pas sans esprit. Cependant, M. Hervart médita longtemps sur ce mystère et il édifiait des théories perverses sur la précocité des jeunes filles. Bientôt, il eut honte de ses divagations. Les femmes sont complexes, pas plus que les hommes, certainement, mais d'une complexité que les hommes ne peuvent pas comprendre. Elles-mêmes ne se comprennent pas, et d'ailleurs n'en ont nul souci. Elles sentent, et cela leur suffit très bien, à se conduire dans la vie, et même à dénouer des embarras où les hommes se montrent incapables. Il faut agir à leur égard comme elles-mêmes. C'est par le sentiment seul qu'on peut les rejoindre. Il n'y a qu'une manière de comprendre les femmes, c'est de les aimer. Mais pourquoi ne dis-je pas cela tout haut? Elle serait amusée, trouverait peut-être de jolies choses à répondre. Mais, sans être timide, M. Hervart se troublait à entendre le son de sa propre voix. Aussi ne parvint-il plus souvent que des phrases courtes. Elle reprit la main de son amie. Ce langage paraissait lui convenir, hein, M. Hervart s'en accommodait, encore qu'il jugeât un peu puéril ses épanchements manuels. Il songea encore, mais rien n'est puéril en amour. Ce mot qu'il ne prononça pas, même intérieurement, mais qu'il vit écrit comme de sa main sur une feuille de papier, ce mot l'épouvanta. Il abonda en protestations secrètes. Mais il ne s'agit pas d'amour, elle ne m'aime pas, je ne l'aime pas. C'est un jeu. L'enfant m'a rendu enfant comme elle. Il voulait ne plus penser, mais cela continuait. Oh, jeu dangereux, j'aurais pas dû baiser ses yeux. Son front passe encore, cela est paternel. La laisser s'appuyer sur mon épaule, comment faire? Il dut convenir ensuite que c'était lui le coupable. Sans y penser, poussé par son instinct d'homme, depuis son arrivée, depuis 15 jours, tout en continuant d'apparence à la traiter comme une enfant, il lui avait fait une cour muette. À chaque instant, il la regardait, lui souriait, cependant que ses paroles étaient graves. Se sentant l'objet d'une attention perpétuelle, Rose avait cru qu'on voulait la conquérir, et elle s'était laissée prendre. Monsieur Hervart croyait trop bien connaître la psychologie féminine pour admettre que la jeune fille eût fait délibérément le premier pas vers lui. Il se sentait tout pareil à un chasseur distrait qui, au milieu de son coup de fusil, trouverait une perdrix dans son carnier. Oh, cette surprise est agréable, songeait-il. Elle est même beaucoup plus agréable, beaucoup trop.
Chapitre 2. Il faisait déjà chaud. Ils s'assirent à l'ombre sur un tronc d'arbre. De grosses fourmis innocentes le parcouraient, mais M. Hervart ne s'intéressait plus beaucoup à l'entomologie. Il regardait distraitement les petites bêtes affairées, coupant et recoupant leurs voix. Mais savent-elles ce qu'elles font? Et moi, est-ce que je sais ce que je fais? Une sensation les guide, et moi? Elles vont ici parce qu'elles ont cru voir ou sentir une proie, et moi? Oh, moi, je voudrais bien fuir ma proie. Moi, je raisonne, moi, je délibère. Oui, je délibère, enfin, ou du moins, j'essaie. Il leva la tête vers la jeune fille. Rose arrachait des clochettes aux lampes des digitales et les faisait claquer dans la paume de sa main. Elle était sérieuse. Monsieur Herbart avait pu la regarder sans la distraire de son rêve. L'ensemble était joli, et à la fois doux et sauvage. Les traits, gardant encore quelque chose de puéril, s'accentuaient. C'était une femme. Quelle bouche rouge et voluptueuse! Monsieur Hervard se surprit à songer qu'elle donnerait d'excellents baisers. Et quel fruit à mordre, femme ferme et pleine de suc! Rose poussa un soupir et une grosse vague gonfla son corsage blanc. Tout le jeune buste avait semblé s'épanouir. Monsieur Hervard eut la vision d'une blanche rosée, tendre et vivante. Il la désirait comme un enfant désire la pêche qu'il aperçoit au mur sous ses longues feuilles. Il se complut dans ce désir. C'est ainsi qu'il avait songé parfois devant la jeune femme du Titien. L'obstacle était aussi fort. Rose était pour lui une chimère. N'importe, se disait-il, je l'ai désirée et ce n'en est pas sage. Et si je l'aimais, je n'aurais pas eu une telle vision en ce moment. Donc je ne l'aime pas. Oh, heureusement, Rose ne pensait à rien. Elle se laissait regarder. Ayant été vue, elle eut un sourire très doux, nuancé d'un peu de confusion. Et par contraste, elle éclata de rire soudain, et les mains retenues au nœud de l'arbre se penchant en arrière. Son chapeau tomba, ses cheveux se dénouèrent. Elle se dressa, paraissant plus sauvage encore. Monsieur Herbart crut qu'elle allait fuir comme Galatée. Mais il n'y avait pas de saule. Tant pis, dit-elle, pendant que Monsieur Herbart lui présentait son chapeau. Mes cheveux vont rester sur mes épaules. Ils sont bien là. Les épingles ne tiennent pas sur ma tête. Les épingles, dit Monsieur Herbart, tiennent rarement sur la tête des femmes. Elle sourit sans répondre et certainement sans comprendre. Monsieur Herbart trouva qu'elle souriait beaucoup depuis ce matin. Mais son sourire est si doux que je m'en fatiguerai jamais. Tiens, je vais lui dire cela. Que j'aime votre sourire, il est si doux que je ne m'en fatiguerai jamais. Si doux que cela? Mais c'est parce qu'il est tout nouveau. Je n'ai pas l'habitude de sourire. Oh, il y avait de quoi émouvoir un homme jusqu'au fond de l'âme. Monsieur Herbart murmura spontanément. C'est vous que j'aime, Rose. Elle répondit franchement, sans marquer nulle surprise. Mais moi aussi, mon ami. Et en même temps, elle secouait sa robe où erraient des souris égarés. Elles ne piquent pas, celles-là, heureusement, elles sont douces, comme vous. Quel compliment, quelle fadeur, mais que je suis ridicule! Ah, oh, il y en a une sur votre manche, dit Rose. Elle la fit tomber. Maintenant, remerciez-moi. Et elle présentait sa joue, Monsieur Hervard mit un baiser des plus fraternels. Il songeait, mais c'est-à-dire rien comprendre. Pourtant, je pense qu'elle n'aime pas. Si elle aimait, elle fuirait. Ce n'est qu'après le pas décisif que l'amour devient familier. Alors, si nous voulons aller à Cherbourg, dit Rose, il faut déjeuner de bonne heure. Ils partirent, bientôt sortis du bois, entrés dans le jardin, qui n'était guère moins funeste, fruste. Non, ils partirent, bientôt sortis du bois, entrés. Ils partirent. Ils partirent, bientôt sortis du bois, entrés dans le jardin qui n'était guère moins fruste. Il y faisait du soleil, ils le traversèrent vite. Elle marchait devant Monsieur Hervart en passant, cueillit une rose et la présenta à la jeune fille. Rose la prit, en cueillit une autre et la donnant à Monsieur Hervart. Celle-ci, c'est moi. Alors elle se mit à courir et gravit le perron sans se retourner. Monsieur Hervard dut recommencer son raisonnement. Il se sentait heureux, mais comprenait de moins en moins. Mais elle agit comme si elle m'aimait. Et elle agit aussi comme si elle ne m'aimait pas. Oh, ici on dirait que je suis tout pour elle. Et quelque part plus loin, elle me traite comme un simple ami de la maison. Et c'est elle qui me mène. Oh, je n'ai jamais vu que cela que chez les coquettes. D'où a-t-elle appris cela? Les femmes sont comme les gentilshommes du temps de Molière. Elles savent tout sans avoir rien appris. Monsieur Hervard, l'esprit alourdi mais le cœur léger, monta à sa chambre afin de méditer plus à l'aise. D'abord, il retoucha sa toilette avec une certaine application. Il arracha de sa barbe un fil qui, sans être d'argent, était d'un or très pâle. Il vaporisa son gilet et mit à son doigt une bague aux ciselures compliquées. Ben, cela peut servir quand les conversations sont difficiles. Il allait commencer à méditer quand on frappa à la porte. Le déjeuner était prêt. Monsieur Desbois, malgré le dérangement que sa fille lui imposait, paraissait heureux. Il déclara qu'une promenade lui ferait du bien. Il en avait besoin. Puis il en avait droit. Il annonça. « Oui, je viens de terminer le 9e panneau de ma vie de Sainte-Clotilde et notre monastère de Saint-Martin à Tours. » M. Hervard manifesta beaucoup d'intérêt pour cette composition qu'il avait admirée la veille avant les dernières retouches. Il souhaita la voir bientôt en son vrai cadre à côté des autres en l'église de Robin Vastre. « Oh, il y en aura 12, » déclara M. Desbois. « Bien, on viendra les admirer, » dit M. Hervard, comme l'invite Saint-Bernard au Chartreux, et maintenant au Louvre. Oh, j'espère. Mais on y viendra moins. Oui, Robinson Bast est un peu loin. Mais qui va au Louvre? Quelques artistes, les badauds en voyage. Personne en France ne s'intéresse à l'art. Personne au monde, dit M. Hervard, excepté ceux qui en vivent.
Et ceux qui en meurent? Demanda Rose.
M. Desbois regarda sa fille avec surprise. Ben, je n'ai jamais entendu dire que la peinture fût une industrie dangereuse.
Quand on y croit, dit M. Hervard.
Mais comment pas dangereuse, dit M. Desbois, et le blanc de ses ruses?
Il faut croire, dit Rose, en regardant M. Hervard.
Voilà, reprit M. Desbois, où en est le public? Ma femme, par un coq à l'âne merveilleux, a traduit son sentiment. On raconta des anecdotes sans aucun sel sur les distractions coutumières à Madame Desbois, et M. Hervard fut sur le point d'oublier de rire. Il pensait à ce que venait de dire Rose.
Ma fille, dit M. Desbois, demande à Hervard si nous n'étions pas croyants quand nous nous promenions au Louvre.
Ben, nous en avions la fièvre.
Hervard est bon élève, c'est moi qui l'ai formé son goût pour les belles choses. Malheureusement, j'ai quitté Paris et il a mal tourné. Moi, je suis resté fidèle, malgré tout.
Mais, dit M. Hervard, la fidélité ne commence que le jour où l'on est entré dans sa vocation véritable.
Rose parut donner à ses paroles un sens que M. Hervard n'y avait pas mis consciemment. De grands yeux, infiniment doux, semblèrent se poser sur les siens comme des baisers.
« Mais c'est, songeait-il, comme si j'avais fait une déclaration. Je suis fou, mais comment éviter telle phrase que l'on va prendre pour une allusion préméditée ?»
Il trouva cependant le jeu très amusant. On pouvait ainsi parler en public et dire ses véritables sentiments sous le couvert des banalités de conversation. Rose m'en avait donné l'exemple. Il l'avait suivi sans y penser, mais une telle docilité était un symptôme grave.
Oh, ben je suis perdu. Me voici en train de devenir amoureux.
Mais, pareil aux buveurs qui, sentant venir l'ivresse, voudraient se retenir et obéissent encore aux désirs, abolis qu'ils sont par la sensation même qui éveille leur conscience, M. Hervard, ayant jugé qu'il fallait lutter, céda. Il but un grand verre de vin et dit:
On peut se tromper à ses débuts dans la vie et longtemps encore après. J'ai gardé pour l'art un goût vif, mais je m'étais appelé qu'à lui faire des visites. Nous sommes des amis, non des époux. J'ai fondé ma maison sur un autre terrain. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'y demeure fidèlement moi aussi. On ne peut tenir qu'à ce que l'on aime. Pour conserver un trésor, il faut l'avoir trouvé. Il avait parlé avec feu. Quelle éloquence, dit Monsieur Desbois. Rose, tout à coup, se mit à rire, mais d'un rire si heureux, si reconnaissant, que M. Hervard ne s'y trompa nullement. « Mais on se moque de toi, mon pauvre ami, » reprit M. Desbois. À cette méprise, le rire de Rose redoubla. Il devenait joyeux, enfantin, fou. « Voici, » dit Mme Desbois, « quelque chose qui vous consolera, j'espère. Mais quel diable que ma fille !» Par pitié pour sa mère, Rose voulut se contraindre. Elle y réussit, après quelques soubresauts, et dit, s'adressant à M. Hervard, « Qu'en pensez-vous? Vous avez peur, hein ?»«
Oui, plus que vous ne croyez. »«
Mais moi aussi, j'ai peur de moi-même. »«
Voilà un mot raisonnable, » dit Mme Desbois. « Allons, sois sage. » Le gâteau, fait à la maison, ayant été trouvé excellent, elle commença d'en donner la recette. Un repas finissait rarement sans que Madame Desbois énonçât quelques mystères culinaires. La voiture passa devant les fenêtres. Le déjeuner s'acheva sans guère plus de paroles. Rose était devenue songeuse. Et M. Hervard constatait « Mais notre accord a fait en quelques instants mais d'effrayants progrès !»
Chapitre 3. Il continua ses méditations dans le petit break qui les emmenait rapidement à la gare de Courville. Rose était assise en face de lui, leurs pieds naturellement se rencontrèrent. Monsieur Desbois, qui possédait plusieurs fermes, inspectait l'état des récoltes. Plusieurs champs de blé étaient versés. Il voulut monter à côté du domestique pour l'interroger. En était-il partout, de même, dans le pays? Il était très inquiet. M. Hervard avança un peu les genoux. Il tenait entre ses jambes les jambes frissonnantes de la jeune fille. Elle souriait. M. Hervard, un peu oppressé, n'osait parler. Il prit sa main et la baisa. Mais Rose, tout à coup, s'écria « Ah, nous avons oublié le microscope !»« Ah oui !» Notre prétexte, nous allons, qu'allons-nous devenir? Avons-nous besoin de prétexte maintenant? Monsieur Hervard resserra la prison de ses jambes. Ce fut sa première réponse. Nous voilà complices, Rose, dit-il ensuite. C'est grave.
Mais je l'espère bien, mais nous le sommes depuis plus longtemps. Depuis ce matin, oui.
Elle rougit un peu. « Surtout, reprit M. Hervard, depuis que vous avez dit, il faut croire. »«
Mais j'ai dit ma pensée. »«
C'est la mienne aussi. »« Ainsi, songeait-il, je dis ce qu'il faut dire, sans trop m'avancer. »« Oh, si j'osais !»
Le microscope, cependant, l'inquiétait.
« Je l'achèterai un, dit-il, je vous le laisserai. »« Il me servira quand je viendrai. »«
Mais taisez-vous, dit Rose à mi-voix, mais sur un ton violent. » Parler de venir, c'est parler de partir.
M. Hervard ne sut rien dire. Il se tira d'affaire en redoublant encore une fois l'étreinte de ses jambes. Celles de Rose répondirent doucement. On arrivait à la petite gare solitaire. Le train s'annonça. Un quart d'heure plus tard, il était à Cherbourg. M. Desbois annonça aussitôt son intention d'aller au musée. Il désirait contempler des chefs-d'œuvre, disait-il, et conférer une fois de plus son art personnel avec celui des maîtres. M. Hervard se récria. Ses vacances, c'était de fuir les musées. Il tenait d'ailleurs cette collection de noms trop beaux, comme en grande partie apocryphe. Les catalogues du Louvre, dit-il, sont déjà trompeurs. Que doit-elle celui du musée de Cherbourg?
Monsieur Desboires haussa les épaules. « Mais tu es perdu dans mon estime !» Et il affirma l'authenticité parfaite des Van Dyck, Van Eyck, Chardin, Poussin, Murillo, Jordaens, Ribera, Fra Angelico, Cranach, Pervus et Ocarve de Vinci, qui paraît l'hôtel de ville. « Mais il lui manque un Raphaël, dit M. Hervart, un Velasquez, un Titien et un Corrège. » M. Desbois répondit sarcastique. « Mais il y a un cabinet d'histoire naturelle. » Et faisant un geste de la main, il disparut au coin d'une rue. Tout semble avoir été combiné en cette triste cité maritime pour faire croire que la mer n'existe pas. Les maisons lui tournent le dos et l'on a aménagé entre le rivage et la ville un vaste désert de pavés, de poussière et de vent. Pour découvrir que Cherbourg est vraiment un port de mer, il faut gravir le rocher du Roule. M. Hervart souhaita de s'élever sur ce pinacle. « C'est inutile, dit Rose. Nous allons monter sur la tour du jardin Liais. » Ils marchaient côte à côte dans les rues mornes. À chaque pas, Rose regardait M. Hervart, inquiète de son silence. Elle prit son bras. « Je n'osais vous l'offrir, dit-il. Mais aussi je le prends moi-même. Je suis content, Rose, d'être ainsi à me promener avec vous. » Mais en réalité, il était très gêné. Cette bonne fortune était à la fois trop innocente et trop libre. Il se demandait comment faire pour la maintenir au moins dans les bornes présentes. « Mais si cela continue, et cela ne date que de ce matin. » Mais un raisonnement très logique le rassurait. « Ou j'en veux ou j'en veux pas faire ma femme. Or, dans un cas comme dans l'autre, je dois la respecter. C'est évident. N'étant ni un sot ni un malhonnête homme, je n'ai rien à craindre de moi-même. L'instinct civilisé dominera nécessairement l'instinct naturel. Je suis très civilisé. » Il s'était vêtu légèrement, le bras qu'il serrait brûlait sa chair. « Hélas, en amour, on n'est sûr de rien, sûr de personne, de soi-même moins que de tout autre. Mais que suis-je aux mains du désir? Et il faut qu'en même temps que les miens, j'endorme les nerfs surexcités de cette petite. Les nerfs, non, le sentiment. Mais le sentiment mène à tout. Oh, je suis ridicule avec mes dissertations intérieures, je me gâte de délicieuses minutes. Une maison comme toutes les autres, une porte cochère, une voûte, on est dans un grand jardin où se gonflent parmi les palmiers l'éclat et le parfum d'une fleur exotique. Ils furent plus troublés encore que par les odeurs connues, les couleurs accoutumées du bois sauvage, de la robin vaste. Dans cette oasis paradoxale, l'air maintenu immobile par la hauteur des murailles était lourd et fiévreux. Des effluves presque charnels sortaient des fleurs en amour. Quelle alcôve pour des soirs de caresses, songea M. Hervart. Non, il ne pensait pas à Rose. Son imagination appelait Gratienne, qui était voluptueuse. Il éteignit le soleil et alluma des globes lointains et doux, puis en jetait des coussins de soie rouge sur ce gazon où un magnolia venait de laisser tomber une de ses fleurs prodigieuses, il y coucha nu sa maîtresse. Son délire augmenta, il se mit à genoux, et penché sur la beauté impatiente de son ami, il la couvrait de baisers et des plus tendres adorations. « Ce jardin me rend fou !» dit M. Hervart à haute voix. Le songe fut dissipé. « Voici la tour, dit Rose, montons, il y fera frais. » Elle aussi haletait, mais de malaise et non d'amour. Il faisait frais dans la tour. En quelques instants, Rose, délivrée de son oppression, fut au sommet. Elle avait bien senti que M. Hervart, absorbé par un songe, avait été loin d'elle pendant toute la fin de cette promenade. Et Rose était fâchée. L'apparition de M. Hervart, un peu rouge, et les vœux égarés encore, n'était pas faite pour la rasséréner. Elle se sentait jalouse.
Elle aurait voulu détruire l'objet de cette pensée. Monsieur Hervard perçut le petit mouvement d'impatience que Rose ne sut pas réprimer, et il en fut content. Il aurait voulu être seul. Il alla s'accouder à la balustrade sans rien dire, regardant au loin la mer toute bleue. Cela l'apaisa. De le voir observer de nouveau par quelque chose qui n'était pas elle-même, Rose eut un second frisson de jalousie, mais cette fois elle connaissait sa rivale. Les femmes ne doutent jamais d'elles, et c'est ce qui leur donne la victoire. Rose voulut lutter contre le charme de la mer infinie. Elle alla se poser tout près de M. Hervard, épaule contre épaule, hanche contre hanche. M. Hervard regarda Rose et ne regarda plus la mer. Ses yeux étaient tristes d'avoir fait fuir ironique le désir. Ceux de Rose étaient pleins du sourire le plus doux. Ils ont la couleur de la mer infinie, Rose. C'est tout de même agréable, songeait M. Hervard, d'être le premier à dire cela à une jeune fille. Généralement, les femmes aux yeux bleus entendent ce compliment pour la centième fois. Ça leur fait croire que tous les hommes sont pareils et qu'ils sont bêtes. Ce sont les hommes qui mettent tant de fadeur dans l'amour. Ils sont jolis, les yeux de Rose, mais je n'aurais pas dû le dire. Suis-je le premier? Monsieur Hervard ressentait à son tour les piqûres assez vagues, encore, de la jalousie. Mais ces petites recherches, ces petites complaisances sensuelles, qui les lui a enseignées puisqu'il n'a pas d'amis, sinon quelques cousins, entreprenants et gauches? Que je suis sot et méchant pour moi-même! Rose a eu des amis à Valognes, au couvent. Elle en a toujours et elle leur écrit. Et puis, que m'importe? Je ne suis pas amoureux, il me semble, et tout cela ne saurait être pour moi qu'une suite de sensations légères, qu'un prétexte à d'amusantes observations. L'après-midi s'écoulait. Il fallut penser aux emplettes réclamées par Mademoiselle de Boyce. Ils redescendirent. Oh, comme l'escalier est noir! Donnez-moi la main! Dit Rose. Vers les dernières marches, comme pour le remercier de son aide, elle lui tendit la joue. Le baiser se posa au coin des lèvres. Cette fois, Rose recula, avertie du danger, par une sensation trop vive, trop intime. Mais en s'éloignant, elle faillit tomber. Ses mains se crispèrent sur la main qui la retenait et elle se trouva ramenée vers M. Hervard. Ils se regardèrent une seconde. Elle ferma les yeux, attendant la nouvelle brûlure. « Vous ne vous êtes pas fait de mal !» Elle éclata de rire. « Voilà, se disait M. Hervart, ce qui s'appelle être maître de soi. Oh, si elle se moque, tel est le résultat de la vertu. » Ils entrèrent dans presque tous les magasins de la rue Fontaine, qui est le centre de ce grand village biscornu. M. Hervard acheta des cartes postales. Les châteaux de la Hague sont presque aussi beaux et aussi pittoresques que ceux des bords de la Loire. Il aurait voulu en envoyer l'image à Gratienne, mais il se sentait prisonnier. Cela le mit de mauvaise humeur, l'espace d'un instant. Comme Rose, cependant, entrait dans une mercerie, il se décida. La porte était à côté. « J'aurais voulu votre avis, dit Rose, c'est pour réassortir d'Hélène. » Mais il n'était plus là. Alors, elle attendit, patiente. Les châteaux, enfin, tombèrent dans la boîte. Ils reprirent leur itinéraire, la promenade aboutit chez le pâtissier. C'était un des plaisirs de M. Hervard de manger des gâteaux dans une pâtisserie. Et ce plaisir était complet quand une femme l'accompagnait. On le connaissait bien, celle de la rue du Louvre, au coin de la place. Il y venait tous les jours et pas toujours seul. En entendant avec Rose, il se crut à Paris en bonne fortune. Cela l'amusa. Rose n'était pas moins contente. Souriante et sérieuse, elle eut aussitôt l'air d'accomplir un rite familier. Elle serait très vite parisienne, songeait M. Hervard, qui la contemplait, et il voyait en une minute tout un avenir se dérouler.
Il demeurait que Voltaire, et souvent le matin, elle sortait avec lui, allant au Louvre des femmes. Il la conduisait jusque sous les arcades. Elle le reprenait pour aller déjeuner. D'autres jours, elle entrait à 4 heures dans son bureau et on allait, comme maintenant, manger des gâteaux, boire un verre d'eau glacée. Elle revenait lentement par le pont neuf et les quais. On achetait quelques livres curieux, on regardait les jeux du soleil sur l'eau et dans les arbres. Le bateau les tentait quelquefois, ou le chemin de fer, alors il gagnait quelques bois, moins fou que celui de Robin Vaste, mais agréable encore, et Rose respirait un air presque aussi pur que son air natal. Il n'y avait pas beaucoup d'imagination dans ce rêve de M. Hermart, car il l'avait réalisé bien des fois. Mais d'y introduire Rose, cela en faisait une chose toute nouvelle, un plaisir encore inéprouvé. À la fin de mon séjour, je l'aimerais follement et je serais très malheureux, se dit-il enfin. Ils rencontrèrent bientôt M. Desbois qui le cherchait. On regagna la gare et en attendant l'heure du train, M. Hervart s'intéressa au château qu'il avait pris en double. Pourquoi n'irions-nous pas les visiter? Rose, en disant cela, regardait son père. Il acquiesça. Oui, cela me donnera des idées pour la restauration de Robin Vaste que je médite. Mais il entendait seulement une mise en état. On cimenterait les joints sans arracher une feuille de lierre. La folie du parc et du bois serait respectée. Mais il fallait des allées et des sentiers. L'art, dit-il sentencieusement, ne comporte qu'une certaine qualité de désordre. Et puis, je dois compter avec les préjugés. La mauvaise éducation de mon jardin ferait croire à celle de ma fille. Il y avait dans ce mot des projets de mariage. Rose le perçut aussitôt. « Mais je suis, dit-elle, très bien comme je suis, et Robin Vaste aussi. Voyez-vous la petite orgueilleuse, n'êtes-vous pas de mon avis, dit Rose, en s'adressant à M. Hervart avec un rire qui palliait sa hardiesse. Pour vous, oui. Oh, moi, on ne peut plus rien. Le mal est fait, je suis une sauvage. Mais c'est pourquoi me plaît et me convient la sauvagerie de Robin Vaste. Pourtant, dit M. Hervart, dont les mains étaient couvertes d'égratignures, il y a beaucoup de roses dans le bois. Jamais je n'en vis de si belles, des jets comme des lianes, comme des serpents. Mais moi, jamais je ne m'égratigne, dit Rose. Mais elle ne regardait pas sans plaisir les mains de M. Hervart, qui s'étaient balafrées pour lui cueillir des mûres. Et elle lui dit tout bas, « Je suis méchante comme les ronces. »« Mais défendez-vous comme elle, » répliqua M. Hervart. Ce n'était qu'un mot. Sans doute, M. Desbois songeait à marier sa fille, mais le projet, fort légitime, était lointain encore. Nul prétendant ne menaçait. Ses dispositions, d'ailleurs, plaisaient à M. Hervart, qui, amoureux depuis 10 heures du matin, songeait vers 7 heures du soir à épouser la jeune fille nerveuse et sentimentale qui avait prêté le coin de sa bouche à un baiser maladroit. La soirée se passait régulièrement à jouer aux cartes. Dressée de le plus jeune âge à cet exercice, Rose participait au whist avec conviction. Elle dirigeait, grondait sa mère, disputait des coups avec M. Desbois, et tenait sous ses yeux doux M. Hervart fasciné. En s'asseyant à la table de jeu, il eut aussitôt conscience de cette fascination qui jusqu'alors s'était exercée à son insu. Il se souvenait maintenant que chaque fois que le sort le mettait en face de Rose, un très grand plaisir le grisait. C'était une possession, comme en éprouve au théâtre certains spectateurs enivrés par la comédienne de leurs rêves. Il se rendait compte aussi que son plaisir, à peu près inconscient, devait se traduire par de fervents regards. Son cœur, peu à peu, a répondu à la passion mystérieuse de mes yeux. Ils sont doux aussi, mes yeux, je le sais, ils sont mon attrait.
Quant à mon extase, elle s'explique très bien. Carose, un peu dure de profil et de face presque divine. Son nez trop long rentre, un ovale parfait se dessine. Le sourire semble le mouvement naturel de cette bouche un peu large et les yeux enfin un peu enfoncés s'avancent à la lumière des lampes comme des fleurs. Souvent, je suis resté en pareille extase devant ma belle image de la Vénus du Titien. Il est vrai qu'elle montre aussi d'autres beautés, mais sa figure et ses yeux surtout sont d'adorables pièces. Ne vous faites pas de signe. Cette observation, motivée par un échange de sourires trop accentué, amusa beaucoup Rose, car elle pensait en ce moment fort peu à son jeu. Elle courba innocemment la tête sous la parole paternelle. Ils jouèrent très mal et perdirent beaucoup de fiches. Au retirage des places, ils furent séparés, mais pour être mieux unis, et leurs genoux bientôt se touchèrent sous la table. La partie dans ces conditions devenait exquise. Et par contraste, Rose s'ingénia à battre son ami, cependant que sa jambe innocente le cajolait tout bas. La vie lui paraissait très agréable. Elle s'endormit tard, un peu fiévreuse, rêvant à cette journée où elle avait si allègrement gagné le sommet de ses désirs. Elle était aimée. C'était le bonheur. Pas un instant, elle ne se demanda si elle aimait elle-même. Elle n'avait sur l'état de son cœur aucun doute. Les réflexions de M. Hervard étaient assez différentes et d'ailleurs d'une confusion extrême. Les femmes sont tout entières au présent. Les hommes, moins bien organisés peut-être, vivent surtout dans l'avenir. M. Hervard faisait donc des projets. Il s'endormit au milieu de ses dessins, fatigué de ne pouvoir en dresser aucun, selon une perspective logique.